El Shaddai, prêché à Los Angeles, Californie, le 16 avril 1959. Inclinons nos têtes pour la prière. Ô Dieu Tout-Puissant, c'est avec des cœurs reconnaissants que nous nous inclinons devant toi ce soir, pour t'offrir l'adoration même de notre cœur, d'avoir envoyé Jésus sur la terre afin que nous soyons rachetés et que nous ayons le privilège un jour de le regarder, lui qui nous a sauvés. Nous sommes ici ce soir, nous nous sommes rassemblés en son nom, car il a promis que là où deux ou plus se rassembleraient en son nom, il serait au milieu de nous, et que si nous étions d'accord pour quelque chose, il l'accorderait. Seigneur, nous sommes parfaitement en accord ce soir, que s'il y en a dans ce bâtiment qui ne sont pas sauvés, qu'ils puissent être sauvés ce soir, ou s'il y en a qui écoutent aux ondes de la radio, qu'ils puissent être sauvés ce soir. Guéris tous ceux qui sont malades et affligés, et reçois la gloire pour ton nom, car nous sommes tes serviteurs, et nous sommes ici pour te servir au mieux de notre connaissance. Maintenant, nous nous consacrons nous-mêmes, ainsi que nos esprits, nos pensées et tout ce que nous sommes, nous le remettons entre tes mains pour ton service, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'étais assis dans l'auto, jouissant de l'orchestre qui jouait, et Madame Piper, comme nous aimons toujours son message en chant, et ensuite d'entendre parler frère David, cela est toujours une inspiration pour moi d'entendre ce guerrier du Seigneur parlant de ce qu'il pense du Seigneur Jésus. Maintenant, il a des services ici chaque matin à, je crois, environ 10 heures. Je parlais aux gaillards qui enregistrent, ils vont faire des bandes de cela, et ils ont dit qu'ils les garderaient toutes pour moi afin que je puisse toutes les entendre, après que j'aurai l'occasion de pouvoir les entendre. Je suis sûr que cela vous fera du bien, frère Duplessis. Je le connais maintenant depuis quelques années. Il me connaît depuis plus longtemps que moi je le connais, car il était aux réunions et je ne le savais même pas. Mais je connais sa famille, et ce sont tous de bons chrétiens. Quand j'étais en Afrique du Sud, son frère était mon interprète, un chrétien très bien. Et j'aime l'esprit de David. Il est parti, donc il ne m'entend pas, mais j'aime son esprit aimable, direct au but, ne faisant aucun compromis, mais par contre très aimable avec cela. J'aime cela. Vous savez, Jésus n'était pas du tout une poule mouillée. Il n'était pas d'un genre efféminé. Il était un homme. Et par contre, il pouvait parler directement au but, mais avec gentillesse. Et quand je vois quelqu'un qui peut faire cela, je pense à l'Esprit de Christ étant en eux. Donc, frère Duplessis prêche encore demain, et je crois demain soir, il m'a dit qu'il devait partir. Je regrette que je n'ai pas pu parler à sa femme. C'est une des plus gentilles dames. Nous l'avons rencontrée au déjeuner l'autre matin, et comme elle est une gentille dame, une vraie femme typiquement de l'Afrique. Dieu voulant, j'espère être en Afrique du Sud cette année avec frère David, dans une autre grande campagne, où je crois qu'une des plus grandes campagnes que j'ai eues pour le Seigneur était là, où 30 000 véritables païens ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel en un après-midi. 30 000 païens indigènes, et qui n'avaient jamais entendu le nom de Jésus auparavant, pour autant que je le sache. Maintenant, ils n'étaient pas tous des indigènes. Il y avait environ 10 000 mahométans qui étaient dans ce groupe. Et maintenant, je parlais à un missionnaire il y a des années, et il me parlait de ce précieux bijou. Il avait été dans les champs de mission pour tant d'années, et il avait gagné un mahométan. Ce sont les plus durs à gagner, car ils viennent des vieux médo-perses qui ne changent pas, et leur religion est la meilleure, ils disent que c'est la meilleure, et vous ne pouvez pas les changer. Voyez-vous, où je crois qu'ils ont fait leur erreur. Nous n'avons pas fait ce que Jésus nous a commandé de faire, voyez-vous. Nous sommes allés, nous avons fait des églises et des dénominations, nous avons eu des écoles, c'est très bien. Mais Jésus n'a jamais exactement donné la commission à son église de faire cela. C'était de prêcher l'évangile, guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux. C'est cela la commission. Voyez-vous, et nous avons fait autre chose en dehors de cela. C'est la raison pour laquelle l'Évangile ne s'est pas répandu comme il devrait. Retournons aux ordres généraux, frères. C'est vrai. Jésus a dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Et c'est pour cela que je vais au travers de l'Amérique. C'est d'essayer, sans prendre d'offrande, juste les gens donnant librement quand ils désirent me donner quelque chose, pour mettre de côté assez d'argent pour aller là-bas afin de gagner quelques milliers d'âmes à Christ. Ensuite, au jour du jugement, vous serez crédités pour cela, car le Seigneur m'a commissionné d'y aller et vous m'aidez à y aller. Cela nous rendra tous participants en ce jour. Ne serez-vous pas contents en ce jour, quand il viendra et que tout sera fini? Quel merveilleux temps ce sera alors de s'asseoir. Je peux partir n'importe où, descendre d'un avion. Il y a toujours des gens là à l'aéroport. Frère Branham, vous rappelez-vous de moi? Vous avez prié pour moi pour telle et telle chose? Je vais en train. Quelqu'un passe par là et dit, êtes-vous frère Branham? Oh, j'étais dans votre réunion. J'ai été guéri du cancer il y a 10 ans. Et comme je pense comment ce sera lorsque nous assiérons sur les bords de la rivière de l'autre côté. Et ici nous disons seulement, oh, je me rappelle de cette réunion, bonjour, mais là, je veux un rendez-vous avec chacun de vous quand nous serons de l'autre côté. Je veux m'asseoir avec vous pour 1000 ans, avec chacun de vous, voyez, car nous n'aurons plus de temps lorsque nous arriverons là. Alors nous parlerons quelques minutes chacun, 1000 ans chacun, et nous en reparlerons alors. Ce sera merveilleux. Maintenant, parlant de bandes et ainsi de suite, quelques personnes m'ont demandé, pouvons-nous avoir les messages? Ces messages n'ont pas été grand-chose, car ils sont très enroués, j'étais fatigué, beaucoup de pensées devant moi, dont le monde n'en connaît rien. Mais nous avons des messages, là où nous avons notre tabernacle et ces choses, là où nous sommes reposés. Je crois que nous avons 500 messages différents tous en bande. Et les gaillards ont cela à la table et ainsi de suite, et ils les vendent pour juste un peu plus que le coût de la cassette. Ils les laissent partir avec une petite charge de manutention et vous êtes plus que bienvenus de venir les chercher au bureau. J'ai reçu des petites notes, où pouvons-nous avoir les messages? Alors c'est là que vous les aurez, à la table des livres, là à la concession. Maintenant, nous avons eu un temps glorieux hier soir. Du moins, moi j'en ai eu un. Ce que je pensais hier soir, alors que je me rappelais sortir, voyant l'église, criant et louant le Seigneur, je pensais à un certain temps, j'aime tellement aller à la pêche, et la plupart des prédicateurs aiment aller à la pêche, vous savez. Pierre a vu le Seigneur un jour, alors qu'il pêchait avec les apôtres, je pense que c'est la raison pour laquelle les prédicateurs aiment aller à la pêche. Je n'en sais rien pour le poulet, mais ils aiment tout cela d'après le cri du coq. Mais j'étais loin au nord du New Hampshire et je pêchais pour ces petites truites de ruisseau et le chevreuil à la queue blanche. J'étais à 3 jours au loin avec un sac sur le dos dans la montagne et j'ai monté ma petite tente et j'avais un petit poêle là pour que je puisse me réchauffer un peu le soir. C'est le printemps de bonheur. Alors que j'avais pêché le long du ruisseau où j'ai attrapé beaucoup de poissons et ce matin-là où j'étais parti tôt bien avant le lever du soleil, j'ai pris ma ligne à mouche et j'ai pris ma hache afin que je puisse couper des petits bois, couper certains des saules, afin de pouvoir aller jusque là en bas, où je savais qu'il y avait des truites, et je ne pouvais pas bien tirer ma ligne à pêche avec les mouches comme je voulais. Alors que j'avais pêché un bon paquet de poissons pour le déjeuner, je m'en retournais, et j'entendis un bruit, et je regardais au travers des petits arbustes, là où je traversais. Ma petite tente était complètement jetée par terre, une toute petite tente. Et il y avait une vieille mère ours, et 2 petits étaient entrés là-dedans. Et ils avaient ruiné cette tente, elle était toute en pièces. Ce n'est pas ce qu'ils mangent, c'est ce qu'ils détruisent. J'avais un vieux tuyau à poils là-dedans, et la vieille mère ours ne faisait que frapper cela pour l'entendre faire du bruit, vous savez. J'ai remarqué qu'ils s'étaient tous détournés, elle m'a entendu quand j'ai tourné le coin. Le sol avait encore un peu de gelée dessus, et elle regarda là en haut, elle cria à ses oursons, elle se sauva. Et un des petits oursons partit avec elle, juste un tout petit bonhomme, juste un tout petit gaillard. Oh, comme il était beau! Alors ils se sauvèrent, et parce que l'autre ourson ne venait pas, elle s'est arrêtée un peu, et elle appelait son ourson. Un son comme un oiseau qui fait un bruit, elle. Cet autre petit ourson avait son dos tourné vers moi ou à moi, avec le dos tout en boule comme cela, il faisait quelque chose, je pensais. Oh, il a dû trouver quelque chose et il va le ravager. Alors la mère ours criait encore. Elle agissait comme si elle revenait vers moi. Vous savez, si vous jouez avec leurs oursons, parfois, ils vont vous égratigner. Alors j'avais un sac en main et j'avais un vieux fusil qui était dans la tente, mais elle était toute déchirée. Et je ne voulais pas tuer la vieille mère qui laisserait deux orphelins dans les bois. Je ne voudrais jamais être coupable de cela. Alors je cherchais pour un arbre où je pourrais monter très vite, vous savez, si jamais elle venait. Alors j'ai pensé, je vais regarder qu'est-ce qui arrive avec ce petit ourson. Et il était si intéressé, faisant quelque chose. Il avait le dos tourné par rapport à moi, alors je ne pouvais pas le voir. Je gardais les yeux fixés sur la mère ours, car elle continuait à faire son bruit. Donc j'ai marché de côté jusqu'à ce que je parvienne à voir le petit ourson. Ah ! Il avait ouvert mon bocal de mélasse. Alors moi, j'aime les crêpes. Je sais que j'ai bien des sœurs là qui aiment les crêpes aussi. J'avais un bocal de mélasse, vous savez. Et je ne crois pas à l'aspersion, je les baptise. J'étais baptiste, alors je verse beaucoup de mélasse là-dessus, vous savez. Et ce petit ourson avait ouvert le pot de mélasse. Ils aiment quand quelque chose est sucré de toute manière. Il avait sa petite patte là-dedans, et il mettait sa petite patte et il la léchait comme ça quand il ramenait sa patte vers son visage. Et il léchait le pot aussi net que possible. Et il avait de la mélasse du haut de sa tête jusqu'à ses pieds. Alors j'ai crié comme cela, « Sors de là !» Et il s'est détourné, il m'a regardé, la mélasse dans les yeux, il ne pouvait pas voir. C'était un des plus jolis spectacles que j'ai jamais vu. Je n'avais pas de caméra, bien sûr, à ce moment. Et la vieille mère qui continuait de roucouler vers lui. Oh, j'ai pensé que c'est vrai. Voyez, il n'y a pas de condamnation pour lui. Il avait la patte dans le pot de mélasse jusqu'au coude. C'est à peu près comme cela que nous avons fait hier soir. Nous ne nous occupions pas de ce que quelqu'un d'autre disait. Nous avions les mains dans le bocal de mélasse, avec de la mélasse partout. Et la chose étrange, c'était quand ce petit ourson arriva vers sa mère et son petit frère. Oh, ils ont commencé à le lécher. Ils léchaient la mélasse qui était sur lui. Et j'espère que vous en avez eu assez sur vous hier soir. Ils ont léché toute la journée à cause des témoignages que nous avons eus hier soir. Oh, il y a de grandes choses si nous pouvions juste regarder Dieu dans sa nature, comment il œuvre. C'est magnifique de monter au sommet des montagnes, m'asseoir là, prendre du temps pour juste adorer le Seigneur. C'est vraiment bon. Maintenant, Dieu voulant, dimanche après-midi, j'ai promis d'essayer de raconter l'histoire de ma vie. Dimanche après-midi, ce sera la première depuis des années et des années. Et samedi matin est le déjeuner des hommes d'affaires à la cafétéria Clifton. Si vous ne pouvez pas venir, c'est toujours plein de monde là. Si vous ne pouvez pas venir, ouvrez le bouton de la radio, car nous y serons, car nous avons vraiment un bon temps. Et ensuite, dimanche après-midi, dimanche soir, nous revenons ici à nouveau. Et bien sûr, si vous êtes des étrangers, que vous allez habiter dans la ville, venez au temple, si vous ne savez pas où aller, nous serions heureux de vous avoir ici. Et pour le service de l'école du dimanche, je suis sûr que votre âme sera nourrie. Maintenant, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Et je désire lire un seul verset, trouvé là où nous lisions hier soir, où nous avons fini au verset 20, du 4e chapitre des Romains dans la lecture. Ce soir, je veux lire le verset 21, car aussi hier soir, nous avions commencé au 11e chapitre de la Genèse, puis nous sommes allés au 16e chapitre de la Genèse, et nous avons frappé les endroits saillants de la vie d'Abraham. Maintenant, nous lisons ici. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, si Dieu a fait une promesse, Dieu gardera cette promesse. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Dieu garde ses promesses. Et Abraham était pleinement persuadé, peu importe si cela semblait ridicule à la pensée charnelle, ou à n'importe qui d'autre, cela semblait juste pour Abraham. Parce qu'Abraham ne regardait pas tellement à ce qu'était la promesse, ou combien ridicule cela était, il regarda à celui qui a donné la promesse. Cela dépend de ce que vous regardez. Et maintenant nous allons faire un arrière-plan quelques instants, afin d'arriver à l'endroit où nous désirons ce soir arriver, et ensuite, demain soir, nous avons l'intention d'arriver au sommet de notre étude sur Abraham, Dieu voulant. Maintenant je suis loin d'être un théologien ou un docteur, mais ce que je connais de lui, j'aime à le dire aux autres, parce que cela représente tellement pour moi. Et j'espère que cela représentera autant pour vous de l'entendre que cela le fait pour moi de le prêcher. Alors nous serons tous bénis. Maintenant, nous avons découvert hier soir qu'Abraham était un homme bien ordinaire. Il était un homme que Dieu regarda et Dieu vit son cœur. C'est comme cela que Dieu regarde à l'homme. Il regarde au cœur de l'homme. L'homme regarde à l'apparence extérieure, Dieu regarde au cœur. Donc peu importe combien pauvre vous êtes, combien vous semblez incompétent, combien vous avez d'éducation, combien vous êtes illettré, cela n'a rien à voir. Dieu regarde à votre cœur. Rappelez-vous toujours de cela, c'est dans le cœur que Dieu œuvre. Quelques soirs avant que nous prenions ce sujet, au jardin d'Éden, le diable a choisi la tête de l'homme par l'intellectuel, mais Dieu a choisi son cœur par la foi. Et si vous marchez par la foi, vous devez croire des choses que vous ne pouvez même pas voir, ni raisonner avec votre pensée. Nous rejetons le raisonnement. Quand Dieu dit quelque chose, nous ne le regardons plus intellectuellement, nous le laissons ancrer profondément dans notre cœur. Et nous appelons toute chose contraire à cela, comme si cela n'existait pas. Nous regardons à ce que Dieu a dit, lui qui a donné la promesse. C'est là où le monde est si mélangé aujourd'hui. Il y a trop de prédications intellectuelles. Au lieu d'avoir des églises remplies de l'esprit, qui adorent dans l'esprit, ils écoutent des messages intellectuels. Et vous ne pouvez pas raisonner ceci. Il n'y a pas moyen de le faire. Je pensais, j'aimerais avoir encore une semaine ici dans le temple. J'aimerais entrer dans un sujet que j'ai sur mon cœur, à propos de la restauration de la vraie église de Dieu. Comment le Gazam a mangé, le Hazil a mangé, tous ces insectes différents, c'est le même insecte, mais dans des formes différentes de sa vie. Et ils ont tout mangé. Et ce qu'ils ont mangé, ils ont fait des choses faites de main d'homme. Dieu ne restaurera jamais au travers de ces choses-là. Il va le faire croître directement du cep, de la souche. Je restaurerai, dit le Seigneur. Cela ne viendra pas d'un credo, d'aucun credo, cela viendra de Dieu. Je restaurerai. Ce Gazam, ce Yélek qui ont mangé l'héritage de Dieu, ils l'ont mangé jusqu'à la souche. Mais cela ne viendra pas par ces choses, Dieu ne s'en servira pas non plus. Cela viendra directement de la souche, d'elle-même. Je restaurerai, dit le Seigneur. Et il va restaurer une foi dans les gens. Le dernier livre avant l'Apocalypse, dans le petit livre de Jude, il dit, « Comme je désirais vous écrire au sujet de notre commun salut, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Il s'en était éloigné. Et si cela s'éloignait 33 ans après la mort de Christ, combien plus sont-ils éloignés ce soir? Mais Dieu restaurera cette église à sa condition précédente. Je le crois, je restaurerai. Ensuite, nous devons revenir, et c'est pour cela que j'enseignais sur Abraham, afin de vous faire savoir que la plus grande chose que je découvre dans l'église ce soir parmi les gens, de toutes les églises, quand je dis église, je veux dire toutes, je trouve deux différentes classes de gens. Je trouve des gens fondamentalistes, qui positionnellement connaissent leur position en Christ, mais ils n'ont pas de foi pour cela. Et ensuite, je trouve les pentecôtistes, qui ont beaucoup de foi, mais ils ne savent pas qui ils sont. Alors c'est tout comme un homme qui a beaucoup d'argent à la banque, il ne peut même pas écrire un chèque. Et l'autre peut écrire un chèque, mais il n'a pas d'argent à la banque. Si vous pouviez unir ces deux ensemble, si vous pouviez prendre la foi qui est dans les pentecôtistes, ou dans les gens fondamentalistes, ou prendre le Saint-Esprit, je voulais dire qui est dans les gens pentecôtistes, dans le croyant fondamentaliste, ou prendre leur position, laissez les pentecôtistes connaître leur position comme le fondamentaliste la connaît, il y aurait quelque chose qui arriverait. Mais le problème avec les gens aujourd'hui, ceux qui ont le Saint-Esprit, ils ne savent quoi en faire. Ils l'envoient tout au vent, en vapeur, au lieu de le faire œuvrer pour le Seigneur. Ils le crient, le louent, c'est très bien, mais mettons-le à l'œuvre. Faisons les œuvres pour le Seigneur. Comme Benjamin Franklin, quand il a découvert l'électricité, il commence à crier, « Je l'ai, je l'ai !» Mais juste de dire qu'il l'avait, parce qu'il le sentait qu'il l'avait, mais cela ne fera jamais de bien, jusqu'à ce qu'il le mette en action. Maintenant, voyez ce que cela produit. Et le Saint-Esprit va illuminer le monde avec l'Évangile, tout comme l'électricité l'a fait, et nous pouvons le mettre en œuvre. Mais vous devez laisser œuvrer le Saint-Esprit. Les gens aujourd'hui veulent juste être divertis. Si vous remarquez, sur la plateforme ou des endroits différents, partout, pas seulement ici, mais partout, les gens qui passent s'attendent à... Ils ont eu trop de campagnes de guérison. hautement pressurisé du dernier jour. C'est exactement vrai. Les gens disent, oh, je l'ai dans ma main.
Frère Branham souffre, notre éditeur.
Le sentez-vous, le sentez-vous? Non, vous ne le sentez pas. Vous sentez peut-être votre main, mais c'est tout ce que vous sentez. C'est exact. Jésus n'a jamais dit, l'avez-vous senti? Il a dit, l'avez-vous cru? Pas l'avez-vous senti? Vous le croyez. La foi n'est pas un sentiment. La foi est quelque chose que vous ne sentez pas. Aucun sens ne le déclare. Seulement ce sixième sens, cette foi qui le sait. Vous ne sentez pas, goûtez pas, sentez pas ou n'entendez pas, mais vous le savez parce que Jésus l'a dit. C'est suffisant. Si je pouvais donc vous faire parvenir un message un jour qui secourait tous ces gens de cet évangélisme d'Hollywood et de revenir à la Bible, oh, ainsi parle le Seigneur, alors quelque chose arriverait. Et c'est ce que j'ai ardemment désiré voir. Nous avons eu ici une bonne secousse au temple, mais je voudrais voir un réveil dans le temple. Maintenant, un réveil, ce n'est pas conduire à l'église de nouveaux membres, un réveil, c'est de ranimer ce que vous avez déjà. C'est ce dont nous avons besoin. C'est un réveil. Avez-vous déjà vu la mer avoir un réveil? Certainement. Quand elle commence à sauter, les vagues bondissent, elles battent. Il n'y a pas une goutte d'eau de plus dans la mer que lorsqu'elle était parfaitement paisible. Mais elle a un réveil. Elle jette toutes les ordures sur la rive. Et c'est ce dont l'Église a besoin ce soir. C'est un réveil pour faire sortir tous les non-sens d'elle, les jeter sur la rive, afin qu'ils puissent revenir à une fondation solide de l'Évangile. C'est ce dont la Bible parle lorsqu'elle dit, « Venez, achetez de moi de l'or pur éprouvé par le feu. » Les anciens batteurs d'or, ils avaient l'habitude de l'or, lorsqu'ils le battaient, ils battaient cet or, le tournaient, le battent, y battant toutes les impuretés, jusqu'à ce que le reflet du batteur se reflète dans l'or. Alors ils savaient qu'il avait enlevé les impuretés. Et c'est comme cela que Dieu prend le Saint-Esprit, et prend le chrétien, et l'Église, et il les bat avec l'Évangile, en arrière, en avant, en arrière, en avant, jusqu'à ce qu'il reflète Jésus en eux. Le Saint-Esprit peut voir les œuvres de Jésus-Christ se produisant dans l'Église, alors les choses commencent à aller bien. Mais il y a trop d'impuretés dans l'Église aujourd'hui, trop. Maintenant, ce sont des gens très bien, les meilleurs du monde, le dessus du panier. Mais l'Église a besoin de se préparer. Préparez-vous. La Bible dit, l'épouse s'est préparée, comme je l'ai prêché physiquement l'autre jour. Maintenant, Abraham était un homme à qui Dieu a donné la promesse. Et il a fait une alliance absolument sans condition avec Abraham et sa semence. Et si vous êtes la semence d'Abraham, vous êtes absolument héritier de la promesse, tout comme Abraham l'était, voyez-vous? Et la foi d'Abraham, si vous êtes de la semence d'Abraham. Maintenant, cela ne veut pas dire de la semence physique, cela sont les juifs. Paul a dit, celui qui est juif extérieurement n'est pas un juif. C'est un juif spirituel à l'intérieur. Un juif, un vrai juif spirituel, c'est un homme qui croit la parole de Dieu, tout comme Abraham la croyait, en appelant tout ce qui est contraire à cela, comme si cela n'existait pas. Maintenant, c'est cette sorte d'église. Si nous pouvions avoir ce genre d'église, si nous pouvions avoir ce groupe qui est ici ce soir, sous de telles conditions, il y aurait un réveil qui éclaterait dans ce lieu. Oh, minuit, 1h du matin, 5h du matin, il marcherait sur les planchers de cet édifice toute la nuit, louant le Seigneur. Il y aurait un réveil qui éclaterait ici. Les journalistes seraient ici à la porte le matin. Cela se répandrait à travers le monde, partout. Un réveil a éclaté dans le temple Ensus. Il y a quelque chose comme au jour de la Pentecôte qui se passe. Dieu veut cela. Il le veut. Mais il ne peut pas réveiller ses enfants. Il ne parvient pas à leur faire réaliser cela. Maintenant, nous avons laissé Abraham hier soir à la confirmation de l'Alliance. Et comment il le ferait? Comment Dieu prendrait son propre fils et en faire un sacrifice comme il a montré Abraham? Il n'y avait rien qu'Abraham puisse faire pour l'obtenir, juste de continuer à croire. Dieu avait déjà promis un fils. Maintenant, il n'a pas dit, Abraham, si tu fais une certaine chose, je t'enverrai mon fils. Il a dit, je vais le faire. C'est déjà fait. Jésus était l'agneau de Dieu immolé depuis la fondation du monde. Et avez-vous déjà pensé ceci? Vos noms n'ont pas été mis dans le livre de vie de l'agneau le soir où vous avez donné votre vie à Christ. Saviez-vous cela? La Bible dit que votre nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. La préconnaissance de Dieu. De quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous tellement peur? Vous avez peur. Il semble que vous ne pouvez tout simplement pas sortir de là et tirer la ligne avec l'ennemi. Eh bien, appelez tout ce que le démon dit un mensonge. Que la parole de Dieu soit vraie. Voyez-vous? Vous êtes choisi de Dieu. Vous ne vous êtes pas choisi vous-même. Dieu vous a choisi. Quand vous a-t-il choisi? Avant la fondation du monde, lorsque l'agneau fut immolé. Maintenant, la Bible dit cela. La Bible dit dans le 20e chapitre de l'Apocalypse, je crois, que l'Antichrist, dans les derniers jours, a séduit tous ceux qui habitaient sur la terre, dont les noms n'étaient pas écrits dans le livre de vie de l'agneau depuis la fondation du monde. Combien longtemps? Depuis la fondation du monde. Quand Dieu, dans sa préconnaissance, vous a vu, il a placé votre nom dans le livre. Et quand l'agneau fut immolé, vous avez été immolé avec l'agneau. Alléluia! Les gens ont peur. Oh, si je pouvais seulement. Oh, j'ai peur, je vais peut-être faire une erreur. Faire une erreur? Vous ne pouvez pas faire rien de pire que de vous asseoir et de ne rien faire de cela. Levez-vous et partez. Que l'œuvre se fasse. Faites une sorte d'effort. Vous devez bouger. Quand le Saint-Esprit commence à se mouvoir sur une personne, il devrait marcher avec les épaules en arrière, sa tête haute. Louons Dieu, certainement. Car c'est Dieu qui a cité la parole. C'est Dieu qui a donné la parole. Mais nous ne faisons qu'effleurer la parole et nous disons, eh bien, c'est tout comme un vieux pêcheur une fois, qui revenait de l'océan. Il y avait un homme qui descendait pour aller à l'océan. Et l'homme voulait, il avait entendu parler de l'océan, et il ne l'avait jamais vu. Il avait lu à ce propos, il pensait que c'était merveilleux. Alors il dit, oh, je crois que je vais prendre un repos, et je vais descendre voir ces grandes vagues, comment elles reflètent, et les eaux profondes qui reflètent le ciel bleu, et les mouettes sentir l'air salé. Il dit, comme ce sera merveilleux. Et pendant qu'il y allait, il rencontra un vieux marin de mer qui revenait de la mer, et il dit, où allez-vous, mon cher monsieur? Il dit, je m'en vais à l'océan. Et il commença à dire, comme ce doit être merveilleux. L'autre dit, oh, il n'y a rien là. Il dit, je ne vois rien de si fascinant à cela. Je suis né sous la mer il y a 60 ans, j'y suis resté depuis, je n'y vois rien de si fascinant. Voyez-vous, il y était tellement souvent, jusqu'à ce que cela lui fasse perdre son enthousiasme. Et c'est comme cela avec vous les gens. Vous voyez l'œuvre du Saint-Esprit tellement que cela a perdu de sa victoire, ou vous avez perdu votre victoire sur cela. Cela devient une chose commune. Dieu commence à montrer des choses, à mouvoir des choses dans l'esprit. Cela devrait. La parole va de l'avant. Vous dites, oui, c'est très bien. Oh, sûrement, je crois que c'est la parole de Dieu. Oh my, cela devrait nous faire frémir. Cela devrait être frais à chaque jour. Oui, monsieur, tout nouveau pour nous tout le temps. Cela nous fait frémir de nous nourrir et de festoyer avec la parole de Dieu. Dieu a promis là à Abraham exactement ce qu'il allait faire. Alors nous avons pris l'alliance. Comment l'ont-ils fait? Ils ont déchiré le contrat en deux. Une personne a pris une partie du contrat et l'autre personne a pris l'autre part du contrat. Maintenant, lorsque ce contrat fut terminé, ils devaient venir ensemble et les deux morceaux du contrat devaient se marier exactement ensemble. Voyez-vous? Vous écrivez un contrat, vous le déchirez, et ensuite essayez d'en faire un duplicata une fois. Vous ne pourrez jamais le faire, voyez-vous? Car c'est seulement le déchirement du papier et tout cela. Cela doit coïncider parfaitement. Et lorsque Dieu a fait son contrat avec la semence d'Abraham, il a pris son fils Christ Jésus à la croix. Croyez-vous cela? Ensuite, il l'a emmené là, il l'a brisé en morceaux pour un sacrifice, il a élevé son corps du tombeau, il l'a fait asseoir à sa propre main droite sur son trône dans la gloire, et il a envoyé l'autre partie du contrat, l'Esprit, à l'Église, pour remplir l'Église. Pas surprenant que Jésus ait dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Les œuvres continuèrent. Comment, combien longtemps? Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle de l'Évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et, une conjonction, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Combien loin? Par tout le monde. À combien? À toute créature. Comment les apôtres pouvaient-ils le faire? Cela n'a même pas encore été fait. Alors la commission demeure toujours la même. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Ce mot grec cosmos, cela veut dire l'ordre ou le système du monde. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, vous, c'est l'Église. Car je, un pronom personnel, je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Pas jusqu'à la fin des apôtres, mais jusqu'à la fin du monde. Et les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, maintenant demeurez veut dire restez là. Si vous prenez la promesse de Dieu ici, je suis le Seigneur qui te guérit, vous la placez dans votre cœur, vous la laissez rester là, ne la laissez jamais sortir. Laissez-la rester là et agissez sur cela. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela s'accomplira pour vous. Oh, c'est l'exacte vérité. Si vous demeurez en moi, le Saint-Esprit, Christ, et mes paroles, mes promesses demeurent en vous, toutes, alors restez là. Demandez ce que vous voudrez et vous le verrez s'accomplir. Car cela doit le faire. Ensuite, nous découvrons qu'Abraham crut en Dieu. Et ensuite, quand il avait environ 99 ans, encore une année et il aurait eu 100 ans. Et le petit Isaac n'était pas encore arrivé. Mais il louait encore Dieu pour cela. Car il savait que Dieu avait fait cette promesse et que Dieu doit garder cette promesse. Dieu doit garder sa promesse de manière à être Dieu. Oh, si cela pouvait donc s'ancrer sur le côté gauche, sous la cinquième côte, et ensuite rester suspendu là. Voyez-vous? Quand Dieu fait une promesse, Dieu est lié par le devoir de garder cette promesse. Il ne peut pas l'altérer, il ne peut pas la changer. Nous, nous sommes limités. Nous pouvons dire, eh bien, je serai là. Nous devrions dire, si Dieu le veut. Mais voyez-vous, nous sommes limités. Nous pouvons dire des choses et faire des erreurs, mais il est infini et il ne peut pas faire une erreur. Et toutes les fois qu'il fait quelque chose, cela est fait parfaitement. Cela ne peut jamais être mieux. Et de la manière même qu'il agit, cette manière est parfaite. Si un pécheur, le premier pécheur qui soit venu à lui, qui se soit repenti, et que Dieu ait accepté sa repentance, si le deuxième pécheur vient, il doit agir de la même manière qu'il l'a fait la première fois. Si un homme est venu à lui pour la guérison, et que Dieu l'a guéri sur la base de sa foi, la prochaine fois qu'une personne malade vient, il doit faire la même chose, sinon il a mal fait quand il a guéri le premier homme. Il a fait une erreur. Dieu devrait se lever et dire, j'ai fait une erreur en guérissant les gens là-bas, dans les jours des apôtres, parce que je ne guéris plus les gens maintenant. Pouvez-vous imaginer Dieu, le Tout-Puissant, disant une telle chose? Jamais! Pas Dieu, c'est nous. Il n'y a rien de faux avec Dieu. C'est nous, notre foi. Si vous pouvez le croire, chaque préparation a été faite. La guérison a déjà eu son expiation. Les péchés sont déjà là sous l'expiation. Toutes choses sont prêtes. Venez, c'est vrai, le souper des noces est préparé. Mais des excuses sont données. Mais il a dit d'aller dans la... Le dernier appel était d'aller chercher les malades et les infirmes, une campagne de guérison juste avant le souper des noces. Maintenant, vous voyez où nous en sommes. Allez chercher les infirmes, les boiteux, les aveugles dans les rues et dans les chemins, le long des haies. Emmenez-les, guérissez-les, laissez-moi leur montrer ma miséricorde, et alors ils me croiront. C'est vrai. C'est le dernier appel de Dieu, l'appel du souper, c'est la guérison, le dernier appel. Maintenant, après qu'Abraham, quand il avait 99 ans, nous arrivons maintenant au 17e chapitre, le prochain chapitre de la Genèse, et Dieu lui apparut encore. Et quand il lui apparut cette fois-ci, il lui apparut dans le nom du Dieu Tout-Puissant. Le nom hébreu là est El Shaddai. Ce qui veut dire El veut dire Dieu, le puissant de Genèse 3, le puissant. El, Dieu, le donateur de vie. Shad, cela veut dire le saint, comme pour une femme. Shaddai veut dire les saints ou au saint, pluriel. Et Dieu apparut à Abraham au nom du Dieu Tout-Puissant, au saint. Quelle chose qui apparaît à un vieil homme de 100 ans. Et son corps était comme mort. Et après lui avoir fait la promesse qu'il aurait un bébé par sa femme Sarah, et elle avait 90 ans, pensez-y. Maintenant, quelle promesse, Abraham? Tu es vieux, ta force est anéantie. Pour les dernières 25 années, tu m'as fait confiance. Mais maintenant, je veux te dire ce qu'est mon nom. Mon nom est celui qui a des saints, le Tout-Puissant. je suis le Dieu qui a des saints. Maintenant, surveillez. Non pas Dieu avec un saint, mais les deux représentant l'esprit et le corps. Meurtri pour nos transgressions, par ses meurtrissures nous sommes guéris. Celui qui a des saints, le puissant, le donateur de force. Prenez un petit bébé quand il est faible, épuisé, mourant. La mère prend le petit bébé dans ses bras, le porte vers ses seins. Et le pauvre petit grogne, pleure, mais aussitôt qu'il commence à se nourrir de la mère, qu'est-ce qu'il fait? Il tire la force de la mère dans son propre corps. Il cesse alors de pleurer, il commence à rire, il est satisfait. Et Dieu, quand un croyant peut prendre possession de la promesse de Dieu, Dieu par Christ verse sa force dans le corps du croyant. Et pendant qu'il reprend la santé, il est satisfait. Alléluia! Le croyant se nourrit de la parole. Celui qui a des saints, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, se nourrissant de la promesse de Dieu, et en prenant la promesse de Dieu de guérison, de salut, quoi que ce soit, il se repose sous les saints de Dieu, tout aussi satisfait qu'il peut l'être. Personne ne peut l'enlever de là. Il se tient accroché là pour sa vie, se nourrissant de la force de Dieu dans son corps. Alléluia! Vous avez été la femme la plus vile de ce pays. Vos noms ne sont peut-être même pas dignes pour que même les chiens les jappent. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous vous emparez de la promesse de Dieu, si vous vous agrippez à cela, si vous vivez, Dieu versera sa force en vous jusqu'à ce que vous soyez si saint que tous sauront que vous êtes un chrétien. Voilà. Vous avez été un contrebandier, un joueur, quoi que vous étiez, peu importe. Si vous prenez possession de ce Dieu qui a des saints, pendant tout le temps que vous vous nourrissez, vos petits pieds avancent, vos mains bougent, qu'est-ce que c'est? Vous avez des douleurs de croissance. Vous en sortez, le Dieu qui a des saints, le donateur de force, le Dieu qui nous suffit. Abraham, tu es vieux, tu es juste comme un petit bébé, et tu n'as pas de vie dans ton propre corps, ton corps est comme mort, mais je suis celui qui a des saints. Prends seulement possession de ma promesse, continue de te nourrir. Et il s'est nourri pendant 25 ans. Nous pouvons à peine nous nourrir pendant 2 minutes. Et ensuite nous disons que nous sommes la semence d'Abraham. Alléluia! Je suis la semence d'Abraham. Prenez possession de la promesse de Dieu et restez-y, restez là simplement, nourrissez-vous. Il satisfait. Quand un homme entend, la foi vient de ce que l'on entend, entendre que Christ est mort pour ses péchés et il a accepté parce que Dieu a frappé à son cœur et qu'il a une invitation pour le souper de l'agneau, alors il prend possession avec toutes ses forces, il se nourrit et se nourrit jusqu'à ce que son esprit commence à grandir. Il est rempli du Saint-Esprit, il devient un vrai chrétien, né de nouveau. Un homme qui est malade entend, la foi vient de ce que l'on entend, Dieu est le guérisseur, il prend l'autre saint et s'appuie seulement jusqu'à ce que la bonté de Dieu, attirant ses promesses, les tirant de la Bible, chaque jour la lisant, la croyant, prenant Dieu, le louant, satisfait que vous allez être parfaitement rétabli. Il y avait une petite femme ici hier soir, dans une chaise roulante, je ne la vois pas maintenant. Je suis descendu pour prier pour elle hier soir. Il y a quelques soirs, elle est descendue de sa chaise, elle commença à marcher. Un homme voulait l'aider, elle dit, « Enlevez-vous de moi !» Elle continua à marcher. Et hier soir, quand je suis allé prier pour ceux qui étaient sur les chaises roulantes, j'ai pensé que je prierais pour elle d'abord. Elle m'a dit, « Frère Branham, le Seigneur m'a déjà guéri. » Elle dit, « Je m'assieds tout simplement ici pour me reposer, mais je vais me lever dans quelques minutes. J'ai déjà marché 4 ou 5 fois aujourd'hui. Je suis de mieux en mieux tout le temps. » Elle est peut-être assise quelque part dans l'auditoire ce soir, ou autre. Et elle n'est pas assise ici dans sa chaise roulante en tout cas. Pourquoi? Elle s'est emparée des saints de Dieu. Elle se nourrit des forces, certainement. Oh, je suis si heureux de savoir que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Il nourrit ses petits. Il verse sa force dans ses croyants au travers de sa parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, lorsque le croyant vient se présenter à El Shaddai, et qu'il s'appuie sur sa poitrine et qu'il puise la force de Dieu dans son propre corps, voyez-vous? En croyant sa parole, « Oh, béni soit le nom du Seigneur !» Maintenant il dit à Abraham, « Bien que tu sois vieux, ton âge est passé, tu es si vieux, tu as 100 ans, mais tu crois à la promesse. Alors je suis le Dieu qui a des saints, je vais verser ma force en toi. » Nous allons voir demain soir s'il l'a fait ou non. Je vais te nourrir jusqu'à ce que tu reprennes tes forces à nouveau. Continue seulement de croire cette promesse. Seigneur, je l'ai fait pour 25 ans. Eh bien, tenez-la bien, restez avec elle. Et Abraham crut Dieu. Il a cru que c'était la vérité. Il savait que Sarah, qui avait presque 100 ans, malgré cela, il aurait ce bébé par elle, parce que Dieu lui avait promis cela 25 ans auparavant. Il n'y avait pas un signe de bébé encore, aucun signe de rien de naturel qui arrive à la femme afin qu'elle le soit. Elle était depuis bien des années loin de la ménopause, 90 ans, la ménopause est à 40 ans, voilà, et parfois 45 ans, elle est vieille, elle a voici 90 ans. Oh, et nous sommes les enfants d'Abraham, les enfants d'Abraham. Ensuite, qu'arriva-t-il? Maintenant, ceci n'est pas de la fiction, ceci est la Bible, c'est la vérité de Dieu. Sa promesse, je l'ai essayé et je l'ai éprouvé et je sais que vous pouvez prendre la parole de Dieu et il vous restaurera et il l'accomplira. Maintenant la voici. Et la première chose que nous savons, Lot est allé à Sodome et il s'est tout mélangé encore. Et après que Dieu ait fait cette promesse à Abraham qu'il était El Shaddai, le puissant, alors il monta sa tente dans les plaines sous un chêne. Et un jour, en plein cœur du jour, vers 3 ou 4 heures de l'après-midi, je suppose, quand le soleil occidental brille, chaud en Canaan, les rayons directs de cette chaleur peuvent faire même des ampoules rapidement. Il était assis là, dans la porte de la tente, sa tête penchée, peut-être qu'il étudiait ou qu'il pensait à Dieu. Et il leva ses yeux, et il vit 3 hommes qui venaient. Et dans un sens, Abraham voulait être aimable. Alors, il trouvait que ces hommes marchaient étrangement, tout poussiéreux de la rue, habillé d'une façon ordinaire. Et ils venaient là marchant. Et Abraham sortit et les invita. Autrement dit, quelque chose comme ceci. Messieurs, vous êtes fatigués, vos pieds doivent être las. Maintenant, j'ai un bel arbre ici avec de l'ombre. Ne voulez-vous pas venir vous asseoir ici, sous l'ombre de l'arbre, et j'irai chercher un peu d'eau, je vais vous laver les pieds, cela vous rafraîchira, je vais vous chercher un bon breuvage froid, et ensuite vous pourrez continuer votre séjour. Ils ont dit, vas-y Abraham. Allez-y, monsieur, quoi que vous ayez dit, qu'il en soit ainsi. Je peux m'imaginer voir Abraham courir à travers les petites tentes, vous savez, arriver à la grande tente. Il dit, Sarah, verse 3 repas tout de suite, passe-le aux amis, enlève-y toutes les mottes, fais des gâteaux sur le feu, quelqu'un est là-bas. Il y a tout simplement quelque chose à propos de ces hommes qui me semble étrange. Ce ne sont pas des prédicateurs ordinaires. Alors, le voilà, il court derrière la tente, il y avait là une petite écurie où il gardait des veaux. Il tâta jusqu'à ce qu'il trouve le plus gras. Il le donna à ses serviteurs disant, « Allez, apprêtez-le tout de suite !» Il retourna et Sarah avait fait cuire un gâteau. Et les donna à Abraham, il les sortit, il leur donna les gâteaux. Et ils s'assirent pour manger. Maintenant, pensez-y. Il mangeait des côtelettes de veau, il buvait du lait et mangeait des gâteaux au maïs avec du beurre. Oh, c'est un bon repas de régime. Alors, il les avait tous là mangeant, et je puis m'imaginer Abraham cherchant un fly bush. Je suppose que vous ne savez pas ce qu'est un fly bush. Et il faisait partir les mouches. Vous savez combien savent ce qu'est un fly bush? Oh, regardez, tous les gens du Kentucky ici. Nous n'avions pas de porte paravent jusqu'à il y a quelques années. Nous avons toujours eu un vieux fly bush, ce qui traduit littéralement signifie un arbuste pour les mouches. Note de l'éditeur. De mon temps, le dimanche au dîner, je me tenais là à chasser les mouches. Une toute petite cabane en bois. Il n'y avait pas de châssis là-dedans, juste une porte que l'on poussait, les mouches rentraient, donc il fallait toujours les chasser. Alors, je peux voir Abraham, se tenant là avec son flybush, chassant les mouches. Il regardait toujours vers eux, se disant, ce sont des hommes étranges, poussiéreux, ayant voyagé de loin. Et après un moment, lorsqu'ils eurent fini de manger, c'est étrange que ces hommes mangeaient. Ils étaient habillés avec des vêtements ordinaires, de la poussière sur leurs vêtements, mangeant de la viande et buvant du lait. Et l'un d'entre eux était Dieu lui-même. C'est ce que les Écritures disent. Abraham l'a appelé Seigneur. S majuscule E I G N E U S Elohim, le grand Dieu Jéhovah. Je sais bien que des écrivains ont essayé de dire que c'était une théophanie et ainsi de suite. Mais ce n'était pas vrai. Ils mangeaient de la viande, ils buvaient du lait, ils mangeaient du pain de maïs. C'est vrai, il était absolument un homme, assis dans une chair humaine. Quelqu'un m'a dit dernièrement, « Billy, tu ne dis pas que tu crois que c'était un homme ?» J'ai dit, « Absolument, c'était Dieu en chair. » Il dit, « Où a-t-il donc pris cette chair ?» J'ai dit, « Le grand créateur du ciel et de la terre, deux anges avec lui, la Bible dit qu'ils étaient deux anges et Dieu lui-même. » Mais il dit, « Où a-t-il pris ce corps ?» J'ai dit, « De quoi sommes-nous formés ?» Ces éléments, pétrole, calcium, potassium, lumière cosmique, mais Dieu a simplement dit, « Viens ici, Gabriel, viens ici, Michael, nous allons faire un petit voyage pour voir le Père Abraham. » Il prit une poignée de calcium, un peu de potassium, la lumière cosmique souffla dedans, comme cela, il entra là-dedans et il commença à lui parler. Alléluia! C'est notre Dieu! C'est la raison pour laquelle je crois à la résurrection. Ma femme m'a dit dernièrement, j'étais en train de coiffer ces deux ou trois cheveux qui me restent, elle m'a dit, « Billy, tu es quasiment chauve. » J'ai dit, « Je n'en ai pas perdu un seul. » Elle dit, « Veux-tu bien me dire où ils sont ?» J'ai dit, « Très bien. » Dis-moi où ils étaient avant que je les aie, et je te dirai où ils sont et où ils m'attendent. Amen. C'est vrai. Frère, je vous dis que je crois à la résurrection. Dieu parlera de ces jours, et nous serons transformés à son image et à sa ressemblance, des hommes et des femmes, pas des anges, mais des hommes et des femmes. Dieu a fait les anges, et nous ne serons jamais des anges. Nous n'avons pas été faits pour être des anges. Les hommes sont faits pour être des hommes. Dieu a fait l'homme. Il s'attend à ce qu'il soit un homme. C'est le patron de Dieu. Et il a fait ce corps, et il entra là-dedans. Il mangea, disparut de devant Abraham, Dieu lui-même, Elohim. Et il était là, parlant à Abraham. Et il dit, Abraham, où est ta femme, Sarah? Un étranger. Comment savait-il qu'il était marié? Comment savait-il qu'il avait une femme, que son nom était Sarah? Vous voyez le même Saint-Esprit dans ce bâtiment ici ce soir disant la même chose. Un étranger avec de la poussière sous ses vêtements en chair humaine. Et il dit, Abraham, où est Sarah ta femme? Oh, il dit, elle est dans la tente. Et la Bible nous dit que la tente était derrière lui. Et il dit, Abraham, crois-tu que je pourrais te cacher quelque chose, voyant que tu as cru Dieu durant tout ce temps? Il dit, je vais te visiter le mois prochain, selon le temps de la vie par Sarah. Et Sarah dans la tente, elle n'a pas ri fort. Mais il a dit que intérieurement, elle a ri en elle-même. Et l'ange avec l'homme dans la chair humaine, mangeant des gâteaux, mangeant du pain et de la viande, avec le dos tourné à la tente, il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Il ne l'avait jamais vue. Il savait qui elle était. Il savait qu'il avait une femme. Elle savait ce qu'elle faisait dans la tente. Alléluia! Si ce n'est pas notre Dieu, je ne sais pas alors. Pourquoi a-t-elle ri quand elle était dans la tente? Remarquez que c'était juste quelques heures, un autre message fut prêché à Sodome, et c'était pour se préparer à sortir. Ensuite, le feu du ciel tomba. Est-ce la vérité? Maintenant, voyez, c'est de cette manière que Dieu agit. Quand Jésus est venu à la fin de la dispensation juive, il a fait les mêmes choses exactement. Est-ce vrai? Quand il est allé aux Samaritains, il a fait la même chose. Maintenant que nous sommes à la fin de l'âge et gentils, il doit faire la même chose. Il ne l'a jamais fait avant la fin de l'âge, à la clôture de l'âge. Maintenant, écoutez ce que Jésus a dit. Comme il en était au jour de Sodome, oh, que cela s'ancre profondément. Comme il en était au jour de Sodome, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de Dieu. L'Esprit de Dieu en chair humaine, dans son Église, révélant et manifestant le signe du Messie, comme il l'a fait en ce jour, comme il l'a fait au jour de Christ, comme il l'a fait à la fin de la dispensation des gentils, juste quelques heures avant que les bombes ne tombent, avant que le monde ne soit détruit. De grands hommes, des scientifiques, des généraux, ainsi de suite, disent que la prochaine guerre ne durera qu'environ 3 minutes. La Russie a son temps sûr pour Hollywood et Vine. Il les a assignés, il leur a assigné un temps pour Lakeside et Chicago, et ensuite pour New York City et partout. Ces bombes sont là, toutes prêtes. Nous avons un temps fixé par Moscou et différents endroits. Nous avons un temps pour eux. Cela prend juste une seule personne de faire l'erreur d'en faire sauter une à un certain moment. Qu'est-il arrivé? La Bible s'est accomplie alors. C'est la seule chose qui reste. Ne pouvez-vous donc pas voir ce que Dieu fait, ami? Ne pouvez-vous pas vous pincer, non pas les mains,
mais peintez votre esprit avec la parole de Dieu et la croire. Dieu a promis qu'avant que le Christ viendrait, que l'Esprit de Dieu se manifesterait tout comme au temps d'Abraham. Pourquoi? Maintenant, rappelez-vous qu'il n'a jamais fait cela à Sodome. Il a fait cela à Abraham. C'est pour cela que le message n'arrive pas tout de suite comme il devrait. C'est seulement pour les élus. Le monde de l'Église, la semence d'Abraham. Oh, vous les enfants d'Abraham, sûrement que vous n'êtes pas si aveugles que cela. Ne pensez pas que je parle de moi-même. C'est un mensonge. Si je disais que c'était moi, je serais un menteur. Je parle de l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Faisons la même chose, l'ange du Seigneur. Vous en avez la photographie juste ici. La science a pris la photo. L'œil mécanique scientifique de la caméra. George G. Lacey a examiné cette photo de Houston ce soir. Il a dit, frère Branham, j'ai dit parfois que c'était de la psychologie, comme on me disait, que vous pouviez lire les pensées mieux que de dire cela. Il dit, je pensais que c'était de la psychologie, mais dit-il, que vous étiez un grand télépathe ou lecteur de pensées. Mais, dit-il, l'œil mécanique de cette caméra ne prendra pas la psychologie. Il dit, la lumière a frappé la lentille. La lumière est là. Qu'est-ce? La même colonne de feu qui suivait les enfants d'Israël. C'est la même chose ici, aujourd'hui. Le même Christ. N'importe quel étudiant de la Bible sait que la colonne de feu qui gardait les enfants d'Israël au travers du désert était l'ange de l'Alliance. Christ, le Logos, qui est sorti de Dieu au commencement. Et quand il fut fait chair dans un corps humain, ici sur la terre, appelé Jésus, regardez ce qu'il fit alors. Regardez ce qu'il a fait quand il descendit dans la chair et qu'il parla à Abraham. Regardez ce qu'il a fait quand il était ici sur la terre et quand il marcha en Galilée, ce qu'il a fait. Le voici encore ce soir, demeurant en chacun de nous, l'Église universelle, faisant la même chose. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, pour éclaircir vos pensées, je le sens, Christ n'est pas une lumière. Christ est une lumière. Christ, quand il était sur la terre, il a dit, « Je viens de Dieu. » Est-ce vrai? Qu'était-il alors? La colonne de feu. Et je retourne à Dieu. A-t-il dit cela? Après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, Paul était sur sa route pour Damas. Et tout à coup, une grande lumière le jeta au sol. Elle aveugla ses yeux. Les autres ne l'ont pas vu, mais Paul l'a vu. Et ils ont entendu la voix. Et il dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il dit, « Qui es-tu, Seigneur? » Il dit, « Je suis Jésus. » Quoi? La colonne de feu à nouveau pour accomplir sa promesse. Je viens du monde spirituel et je retourne au monde spirituel. La chair fut apportée ici pour un sacrifice afin de nous racheter, nous les pécheurs, afin que nous soyons dignes par ta grâce d'y entrer, parce que nous sommes invités à entrer. Semence d'Abraham, ne pouvez-vous pas voir que c'est votre heure? Ne pouvez-vous pas voir que ceci est le temps où Dieu vous appelle? Nous devrions nous repentir. Ce dont l'Église a besoin ce soir, ce n'est pas de nouveaux membres. Oh, les États-Unis ont été ratissés de nouveau, par tant d'évangélistes, jusqu'à ce que ce soit du territoire brûlé, c'est la vérité. L'Amérique a absolument péché et elle a dépassé son jour de grâce. Notez-le sur le livre. Vous n'aurez jamais de réveil universel en Amérique. Cela est passé il y a environ 3 ans, il n'y aura jamais de réveil. Quelques-uns de vous, jeunes gens, écrivez bien mes paroles pour cela. Il n'y aura jamais plus de réveil de la nation, plus du tout. Comme au jour de Billy Sunday, ainsi de suite. Vous aurez ces esprits comme cela jusqu'à ce que Jésus vienne, mais ce ne sera jamais. Dieu s'est détourné de cela. Il est allé vers les nations étrangères. C'est là encore que les gens viennent. Un signe du Seigneur là-bas, et des milliers vont courir à l'autel, des païens. Et cela peut être fait maintes et maintes fois à ce groupe d'Américains qui ont été enseignés de cette manière-ci, de cette manière-là, qui sont tout confus, et ils n'arrêtent jamais pour regarder dans leur Bible. Vous savez, la Bible est la parole de Dieu. Elle est donnée au peuple pour se nourrir. Mais vous avez tellement de manières dessinées. Cela doit être de cette façon, ce doit être de la manière que mon Église dit, ce doit être comme dit mon Église. Quand Jésus est venu la première fois, c'était tout à fait différent de ce que leurs Églises disaient. Et ce sera tout à fait différent de ce que leurs églises disent aujourd'hui quand il reviendra. Parce qu'il a dit, j'ai caché ces choses des yeux des sages et des intelligents et je le révélerai aux enfants qui veulent apprendre. Si vous êtes consentants pour apprendre, prenez la Bible et sondez les Écritures, car ce sont elles qui témoignent de moi, dit Jésus. En elles, vous pensez avoir la vie éternelle, elles témoignent de moi. Vous savez, quand il vint, son ministère était si surnaturel qu'il aveugla les yeux des prédicateurs de ce jour. Ils ne pouvaient pas le voir. Ils ont dit, « Oh, celui-là qui dit à ces gens ce qui ne va pas chez eux, leur disant leur nom ces choses, c'est un esprit de démon en lui, c'est Belzébul. » Jésus a dit, « Je vous pardonne pour cela, mais un jour le Saint-Esprit... »
Partie coupée sur la bande originale anglaise de l'éditeur.
Viendra pour faire la même chose. Un mot contre cela ne sera jamais pardonné dans ce monde ou le monde à venir. Surveillez Sodome. Maintenant, il a dit, comme il en était au temps de Noé, des blasphémateurs, ainsi de suite, comme il en était du temps de Sodome. Sodome, c'est lorsque le feu tomba. Le feu va tomber cette fois-ci. Pas de l'eau, du feu. Le feu tombera du ciel. La Bible le dit. Ces acides volcaniques qui sont là-haut, un de ces jours, vont pousser un de ces missiles à travers, et cela va former une chaîne autour comme cela peut-être. C'est de cette manière que cela viendra. Le temps est proche. Nous savons que cela ne peut tarder longtemps. La science dit encore 3 minutes de plus, et ce sera minuit. L'horloge frappera à une de ces heures. Tout sera parti dans la période de quelques minutes. Le monde sera en feu. Mais avant que ça n'arrive, l'Église sera dans la gloire. Alors, si la fin des temps est si proche, la venue du Seigneur est plus proche. Alors que faisons-nous? Nous sommes assis, surveillons ces choses, nous retournons à la maison et nous disons, n'était-ce pas merveilleux? Ce n'est pas la manière de le faire. Agrippez les Écritures. Commencez à le faire avec la prière sur votre cœur. Seigneur Dieu, est-ce si près? Aide-moi, ô Seigneur, de connaître ta parole. Et sondez-la, appuyez-vous sur elle, restez avec elle. Sautez quelques repas s'il le faut et priez Dieu et vous reviendrez à l'église si chargé de la puissance de Dieu. Des choses vont commencer à se passer par ici. Nous devons avoir cela. Nous voyons la marque. Abraham. Voyez-vous comment cela a été donné à Abraham? Abraham avait vu ce signe avant que le feu ne tombe à Sodome. Et la semence d'Abraham verra le même signe avant que le feu ne tombe dans la Sodome moderne d'aujourd'hui. Que Dieu vous aide, vous les gens. Je vous aime. Ce n'est pas mon intention d'être grossier. Ce n'est pas que je veuille vous gronder. Vous les gens qui êtes là à l'écoute par les ondes de la radio et vous les gens qui êtes ici. Je n'essaye pas de vous gronder, mais je veux vous réveiller. Cela va être dépassé avant même que vous vous en rendiez compte. Le jour de la visitation, et vous le saviez. Jésus ne s'est-il pas assis, regardant vers Jérusalem et dans son esprit, il pleurait, disant, « Jérusalem, Jérusalem, si tu avais pu connaître ton jour, si tu avais pu le connaître, mais cela est dépassé maintenant. Et parfois, au fond de mon cœur, je sens le Saint-Esprit pleurer pour les gens. Oh, je sens, je suis fatigué, je suis épuisé, je suis exténué. » Ma femme me dit, « Tu ne peux pas y aller encore une fois, chérie, tu es sur le point de tomber. » Tu as fait le service toute la journée, tu y as été semaine après semaine, tu as l'air terrible, tu es si nerveux que tu ne peux même pas t'asseoir à la table. Tu es au milieu du plancher le soir, avec ton oreiller dans les bras, priant pour. Elle dit, tu es si nerveux, reste à la maison chérie avant que tu ne meures. Je dis, mais chérie, il y a de précieuses âmes là-bas pour lesquelles Christ est mort. Je dois le faire, c'est pour cela que je suis ici. Je vous aime, que Dieu révèle cela aux gens, c'est ma prière. Je ne suis pas ici afin d'être vu. Je suis ici parce que je vous aime et que j'essaye de vous brasser avec l'Évangile afin de vous sortir de cette condition formaliste et morbide dans laquelle sont les gens. Revenez à Dieu aux réunions de prière de toute la nuit. Un réveil dans votre maison, un réveil dans votre âme. Revenez, croyez en Dieu. Agissez sous sa parole. Prenez sa parole et croyez-y. Vous êtes la semence d'Abraham. Dieu vous a donné la promesse. Dieu vous a montré le signe. Surveillez cet esprit. Pas moi, je suis un homme. Je suis seulement de la chair qu'il a ramassé là-bas dans la boue du péché. Et s'il devait prendre quelqu'un de juste, qui prendrait-il? Il n'y en a aucun de nous qui sommes justes. Un ne peut pas prier pour l'autre. Un ne peut pas appeler celui-ci ou celui-là, car nous avons tous péché. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu a fait une promesse qu'il le ferait. Il doit prendre quelqu'un. Vous pouvez être sûr de cela parce qu'il l'a parlé et sa parole doit s'accomplir. Il savait avant la fondation du monde ce qu'il ferait. Certainement qu'il le savait. Il savait exactement l'heure et ce qu'il ferait et comment le message arriverait, comment il tournerait le dos à ce message. Il savait comment il rêvasserait paresseusement et s'en retournerait. Combien il y en aurait qui le recevraient et que cela brûlerait dans leur cœur. À cause de ces choses qui sont faites, les gens songent et disent, « Oh, c'est juste un homme, c'est de la télépathie ou quelque chose du genre. » Ils ont dit la même chose en son temps. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, combien plus vont-ils appeler ses disciples? Comment peuvent-ils appeler cela Belzébul, à moins que cela ne fasse la même chose? Et ils appellent cela Belzébul. Nous voici, nous sommes dans les derniers jours. Vous êtes dans la dernière heure. Non seulement dans les derniers jours, mais à la dernière heure. Pensez-y, amis, pendant que nous prions. Inclinez vos têtes. Au monde de la radio, que Dieu vous bénisse là-bas. Ceci est un moment sérieux. C'est un temps de décision. C'est un temps où vous devez faire quelque chose pour Dieu. Je ne parle pas, bien sûr que je parle aux pécheurs, mais je parle principalement à l'Église. À l'Église. Cela fait des années après années que cette chose se meut au travers de la nation. La fin est proche. Les signes ont été accomplis. Il a dit, surveillez le figuier quand il pousse. Il a dit, considérez-le, et le figuier lorsqu'il commence à pousser tous ses bourgeons, quand vous voyez le figuier, tous les autres arbres pousser des bourgeons, vous savez que l'été est proche. Regardez bien ceci. La nation juive a un réveil, l'Église catholique a un réveil, les baptistes sous Billy Graham, les méthodistes avec Jack Schuller, les pentecôtistes avec Oral Roberts, tous les arbres commencent à pousser des bourgeons. Le temps est proche. Nous ne pouvons pas nommer une personne particulière en Israël, car Dieu traite avec Israël en tant que nation, le monde des gentils en tant qu'individu. Prions maintenant. Cherchez Dieu, la chose que Dieu a dit qui arriverait. Et il a donné l'exemple à Abraham, votre père. Et si vous n'êtes pas la semence d'Abraham, vous êtes perdu. Car la promesse est faite à Abraham et à sa semence. La promesse est donnée absolument sans condition. Maintenant, réveillez-vous et prions. Maintenant, vous, dans le monde de la radio, vous la semence d'Abraham sur les ondes, vous qui êtes malade et qui avez un besoin, vous là, dans un bar ou dans une salle de billard, où que vous soyez, conduisant votre voiture, trouvez-vous un petit coin pour quelques instants et prions. Si vous êtes assis à la table, mangeant, le message vient dans la chambre, inclinez simplement la tête quelques minutes, placez vos mains sur la table et dites, « Oh Dieu, sois miséricordieux envers moi, je ne veux pas être perdu. » Quelque chose a parlé maintenant à mon cœur. Alors vous dites, que le Seigneur, que ce soit moi, si vous êtes dans un restaurant, alors faites la promesse à Dieu maintenant pendant que nous prions. Et ensuite, faufilez-vous quelque part. Sortez de la salle de billard, où que vous soyez. Tirez votre voiture, mettez-la sur le bord de la route quelque part. Stationnez-la prudemment et ensuite, mettez-vous à genoux. Et allez rapidement à la maison, allez dans votre chambre à coucher, dites, Seigneur, je veux en discuter avec toi. Oh, il est plus tard que nous ne le pensons. Soyons prêts, et vous ici à l'église, vous chrétiens, oh, vous la semence d'Abraham, étoile du matin, vous qui sortez de la poussière et de la saleté du péché, et Dieu a fait de vous des étoiles brillantes pour briller aux côtés de l'étoile brillante du matin, secouez-vous. Levez-vous, secouez la poussière de vous-même. Croyons et sachez que Dieu est ici pendant que nous prions. Dieu éternel qui a ressuscité Jésus des morts et qui nous l'a présenté à nous-mêmes comme un sacrifice suffisant pour enlever tous les péchés, nous prions, Seigneur, pour ceux-là qui sont dans le monde de la radio, qui se sont inclinés à ce moment même. Nous demandons que ta miséricorde, ô Dieu, les sauve. Laisse-les savoir que ce petit sentiment étrange qu'ils ont dans leur cœur, que c'est toi qui leur parle, car tu as dit, aucun homme ne peut venir à moi, à moins que mon Père ne l'attire premièrement. Et tous ceux qui viendront à moi, je leur donnerai la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Tu as promis cela, ô la glorieuse semence d'Abraham, par laquelle nous sommes bénis dans le Seigneur Jésus-Christ. Accorde ce soir, Seigneur, que s'il y en a là, et je crois qu'il y en a, qu'ils puissent faire ce grand abandon à toi maintenant. Alors que nous lisions ta parole et voyons ta promesse et entendons les paroles du Seigneur Jésus disant qu'ainsi en sera-t-il comme au jour de Sodome, Dieu se manifestant au travers de l'humanité, montrant des signes, des mouvements surnaturels. Et ensuite, des années plus tard, le grand Moïse a promis que quand celui-là viendrait, qu'il serait un Dieu prophète. Et quand les Israélites, les sincères du cœur l'ont vu, ils savaient qu'il était le Messie. Quand la femme au puits, quand il lui fut dit ses péchés, elle a dit, tu dois être un prophète, nous savons que quand le Messie viendra, il nous dira ces choses. Et Jésus a dit, je le suis, moi qui te parle. Alors elle pouvait courir dans la ville et dire, venez voir un homme qui m'a dit toutes les choses que j'avais faites. N'est-ce pas le signe du Messie? Et tu as promis que cette même chose visiterait les gentils juste avant que le monde soit détruit par le feu comme le fut Sodome. Et voici les semences d'Abraham, voyant cette même chose arriver. Seigneur Dieu, sois miséricordieux, et rapidement, Seigneur, secoue-les, qu'ils ne regardent pas à la chair, cette même chair dans laquelle Dieu disparut un peu après cela. Elle a disparu parce que Dieu n'a fait que s'en servir. Ainsi en sera-t-il avec la chair qu'il utilise maintenant, elle disparaîtra de ses jours. Elle retournera à la poussière de la terre si Jésus tarde. Mais l'Esprit de Dieu vivra continuellement pour toujours. Seigneur, que les gens puissent voir ceci. Guéris les malades et les affligés. Sois miséricordieux au Dieu. Sauve les perdus. Ramène le garçon ou cette fille qui erre. Homme ou femme ce soir, ramène-les en sécurité à la bergerie, ô Dieu. Accorde-le, Seigneur. Et dans cet auditoire visible, que le Saint-Esprit s'empare des cœurs d'ici et réveille-les, et qu'une grande foi s'accumule dans ce bâtiment, afin que le peuple de Dieu puisse voir les œuvres de Dieu et croire en Dieu. Car c'est dans ce but que ces choses sont apportées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux voir Jésus un jour. Pas vous? Quand j'atteindrai cette grève dans la terre au loin, je veux voir Jésus, pas vous. Combien connaissent cette vieille chanson? Je veux voir Jésus, pas vous. C'est une ancienne chanson, elle est très belle. Je me rappelle un matin, me réveillant, j'ai essayé de faire un feu dans mon vieux poêle, et la chose ne voulait pas brûler. J'étais assis là, oh, j'avais froid. Il y avait de la gelée partout sur le plancher, une toute petite cabane. Et j'essayais d'allumer le feu, et le vent était descendu dans la cheminée, ça ne marchait pas. Et Sir Cadell vint d'Indianapolis chantant, je veux voir Jésus, pas vous. Alors je me suis assis sur le plancher froid et j'ai levé mes mains vers Dieu. J'ai dit, Seigneur, que ce soit maintenant que je le vois. Je suis las, fatigué de ceci. Je veux aller à la maison. Je veux en sortir. Parfois les gens se sentent ainsi. Parfois Dieu permet que cela arrive juste pour que l'on ait de l'ennui afin qu'on veuille le voir, ayant faim et soif de le voir. Assis là, tout au fond de cette rangée-ci, du côté gauche, il y a là une personne, là, une dame priant, elle a le cancer. Si vous voulez croire, madame, que Dieu vous guérira, cette lumière est au-dessus de vous. Assise tout au fond, là, elle est assise juste derrière ma bru, Loïs. Si elle veut bien croire de tout son cœur, de retour à son église à nouveau, vous pouvez être guéri si vous le croyez. Et là, en bas, ici, il y a une dame qui me regarde. Elle souffre d'une trop haute pression de sang, assise là au bout de la rangée. Et si vous voulez croire, oui, vous pouvez placer votre main sur elle. Et parce que vous avez fait cela vous-même là-bas, vous avez des varices, vous qui êtes assis à côté d'elle, c'est vrai. Levez la main afin qu'il voit. Très bien, maintenant vous êtes guéri aussi. Vous pouvez rentrer à la maison, être guéri. Amen. Pouvez-vous croire? Regardez. Tout au fond là-bas, il y a un homme. Voilà, cette lumière, je la regarde directement. L'homme a quelque chose qui ne va pas avec sa main et quelque chose qui ne va pas avec son genou. Il est épileptique aussi. Il revient tout juste de l'hôpital. Croyez, là au fond, derrière cet homme, vous pouvez être guéri si vous acceptez simplement le Seigneur Jésus. Croyez-vous que le Seigneur Jésus-Christ est ici? Croyez-vous qu'il puisse révéler des choses comme comme il a fait l'ange du Seigneur quand il était là dans cet homme de chair. Si je vous tournais le dos et que vous priez, croyez-vous qu'il peut faire la même chose? Croyez-vous que vous pouvez accepter que c'est le même Christ d'alors, le même Saint-Esprit qui était dans cette chair humaine qui a parlé à Abraham? Croyez-vous cela? Que certaines de vous, des femmes, priez que ce soit Seigneur pour ta gloire. Que ce soit, que quelqu'un prie le Seigneur, quelqu'un que je ne connais pas, qu'il en soit ainsi ce soir, que ces gens voient que ce message est vrai, c'est la vérité, qu'il en soit ainsi au nom du Seigneur Jésus. Il y a une femme, directement derrière moi, elle souffre d'un trouble de femme, elle doit être opérée, elle est une jeune femme, et elle est récemment devenue une chrétienne, car il y a une apparence toute brillante autour d'elle. Assise au fond de l'allée ici, croyez-vous de tout votre cœur, avec votre tête inclinée là-bas, tenez-vous debout sur vos pieds maintenant. Je ne vous connais pas, n'est-ce pas madame, nous sommes de parfaits étrangers, n'est-ce pas vrai? Même moi, tout ce qui a été dit est vrai. Le même ange qui était sur cet homme, qui avait le dos tourné à la tente, qui connaissait à propos de Sarah, qui la connaissait, le même Dieu est ici ce soir. Le Dieu d'Abraham parlant la même chose aux enfants d'Abraham. Croyez-vous maintenant avec tout votre cœur? Maintenant je vous dis, y a-t-il un pécheur ici qui ne connaît pas Dieu, mais qui se sent étrange dans son cœur? Voudriez-vous bien venir ici maintenant, sans être aucunement persuadé? Êtes-vous convaincu? Venez ici juste une minute, venez ici ami pécheur, prions, un pécheur qui ne connaît pas Dieu, voulez-vous venir? Y a-t-il un rétrograde qui voudrait revenir à Dieu? Descendez ici juste une minute. Maintenant, je ne vais pas traiter dans ces quelques soirs seulement sur la guérison, mais je veux un réveil. Je ne suis pas satisfait. Je veux voir l'Esprit de Dieu se mouvoir. Enfants, regardez bien. Combien croient que je vous aime? Levez vos mains. Vous savez que je ne vous gronde pas, mais vous avez trop de Hollywood autour de vous ici. Vous avez trop de moques du monde. Vous avez trop de soucis. Sortez de cela. Nous avons besoin d'un réveil. Amen. Vous avez besoin de Dieu, mes amis, mes gens. Vous avez besoin de vous réveiller. Nous sommes au bout de la route. Le jugement est ici. Amen. Oh, j'aimerais donc pouvoir. Frère Dautil, vous êtes un des hommes les plus aimables que je n'ai jamais rencontrés. Frère Duplessis, je désirerais qu'il y ait un moyen que je puisse faire voir aux gens ce dont je parle. Nous devons être réveillés très rapidement, sinon nous allons manquer l'enlèvement, mes amis. Cela peut arriver à n'importe quel moment. Combien voudraient faire une consécration à Dieu? Alors levez vos mains, tenez-vous sur vos pieds. Consacrez-vous à nouveau à Dieu. Combien sentez que vous avez besoin d'une consécration? Levez vos mains. Comment puis-je le faire? Combien puis-je? Amis, je ne peux pas le faire. Vous dites, frère Branham, pouvez-vous voir d'autres visions? Si vous ne pouvez pas croire cela, vous ne le croirez pas de toute façon. C'est exactement vrai. Ces visions me rendent faible. J'essaye de bâtir suffisamment de force afin de finir cette semaine pour passer à travers samedi et dimanche les plus grands services de guérison jamais eus. C'est pour cela que je réserve mes forces, pour ces soirs, afin que j'y place tout ce que j'ai dans cela. Voici des gens qui viennent maintenant pour donner leur vie à Christ. Quelques-uns des travailleurs, personnels des conseillers, marchez avec eux. Venez, quelqu'un d'autre qui a besoin de Christ, descendez ici à l'autel. Je vous le dis, ami, comme je le disais l'autre soir. Vous avez entendu tellement de vents impétueux et de tremblements de terre et tant de choses qui secouent que vous échouez d'entendre ce dernier. Quel était le dernier? Une petite voix tranquille, voyez-vous? C'est quelque chose dans votre cœur qui dit « Oui, oui, je le vois ». Oh, si nous pouvions nous réveiller à cela, c'est ce dont nous avons besoin. Qui pourrait prier une prière qui reconsacrerait ces gens? Je ne crois pas qu'il y a un ministre au monde qui pourrait le faire. Vous devez le faire vous-même. C'est vous qui devez le faire. Combien veulent maintenant? Imposez vos mains sur quelqu'un d'autre et priez pour eux, afin qu'ils soient consacrés à Dieu. Ne priez pas pour vous-même, priez pour l'autre personne, pour la personne qui se tient à côté de vous. Priez pour leur consécration, c'est cela. C'est bien comme cela, priez pour quelqu'un d'autre. Faites quelque chose pour quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'il faut faire. Dites, Seigneur, consacre mon frère, consacre ma sœur, verse ton esprit sur eux, c'est cela. Vous priez maintenant. C'est comme cela qu'il faut faire. Consacrez-vous à Dieu. Et si vous sentez la puissance de Dieu dans votre vie, levez vos mains et dites, merci Seigneur. Je fais maintenant ma promesse à toi. Je te fais cette promesse, ô Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre, envoie ton Esprit Saint sur ce groupe et remplis ce lieu par le baptême du Saint-Esprit. Accorde-le, Seigneur, déverse ton Esprit, condamne les gens d'incrédulité et fais descendre la foi, la puissance, la joie, la paix, la satisfaction, qu'ils puissent venir à El Shaddai, s'emparer de son sein, y puiser la force et la puissance de Dieu par la prière, revenir dans leurs âmes et dans leur corps. Accorde-le, Seigneur, entends la prière de ton serviteur, accorde qu'ils prient et qu'ils croient, et qu'ils agissent, et qu'ils croient que ceci est la semence d'Abraham, sachant que le Saint-Esprit est présent. Je le louerai, ô merveille. Cela ne prend pas tellement de prières, cela prend la foi. Vous avez beaucoup prié, mais commencez à croire. Laissez de côté chaque fardeau et chaque péché, l'incrédulité qui vous enveloppe si facilement. Combien y a-t-il de chrétiens des nouveaux? Levez juste vos mains. Regardez cela. Oh, c'est merveilleux. Chantons maintenant. Fermons juste les yeux et levons les mains. Combien se sentent mieux maintenant? Vous sentez que vous avez la foi en vous. Vous sentez comme si vous pouviez aller de l'avant et aller de l'avant. Vous sentez que vous êtes la semence d'Abraham. Alors la petite organiste va jouer le cantique. Je le louerai. Élevons-le hautement et levez vos mains à Dieu et chantez. Je le louerai. Je le louerai. Je louerai l'agneau immolé pour les pécheurs. Donnez-lui gloire, tous les gens, car son sang a lavé toute tâche. Tous ensemble, vous les méthodistes, vous les baptistes, vous les pentecôtistes, tous ensemble maintenant, allons-y. Je le louerai, je le louerai, je louerai l'agneau immolé pour les pécheurs. Donnez-lui gloire, tous les gens, car son sang a lavé toute tâche. Maintenant, pendant que nous le chantons à nouveau, je veux que vous tourniez, donniez la main à quelqu'un derrière vous, devant vous, à votre côté, disant, louez Dieu chrétien, dites, je me sens mieux, je sens que je puis voyager de l'avant maintenant. Dites-le pendant que nous chantons, allez-y, je le louerai, dans le balcon, allez, enlevez votre raideur, je le louerai, l'agneau immolé pour les pécheurs, donnez-lui gloire tous les gens, car son sang a lavé toute tâche. Maintenant, pendant que j'ai prêché durement, et que j'ai dû vous envoyer la parole aussi durement que j'ai pu le faire, vous ne pensez pas que j'étais fâché avec vous, n'est-ce pas? Vous savez, c'était juste pour bâtir votre foi, n'est-ce pas vrai? Levez vos mains si vous croyez cela. Que Dieu vous bénisse. Je vais le chanter avec vous maintenant. Avec vos mains levées. Je le louerai. Alléluia. Je le louerai. Je louerai l'agneau immolé pour les pécheurs. Donnez-lui gloire, tous les gens, car son sang a lavé toute tâche. Tous ceux qui croient chaque parole de Dieu, tous ceux qui sentent que vous pouvez vous appuyer sur la poitrine de El Shaddai et tirer n'importe laquelle promesse de Dieu que vous désirez, dites Amen. Dites-le bien fort, Amen. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Nous pouvons le faire. Que Dieu bénisse votre cœur loyal. Très bien. Inclinons nos têtes maintenant pour la prière. Très bien, frère Daoufil. Gloire à Dieu. Alléluia.